La bataille pour la progressivité fiscale et la chute de la Chambre des Lords. De fait, c'est bien l'extension du droit de vote pour les élections à la Chambre des communes, doublée de la question de la progressivité fiscale, qui vont finir par provoquer la chute de la Chambre des Lords, puis de la société de propriétaires dans son ensemble. Le mouvement en faveur de l'extension de suffrage redouble de vigueur à partir du milieu du XIXe siècle, alors que le suffrage universel masculin a été expérimenté en France en 1848-1852 et de nouveau à partir de 1871. Au Royaume-Uni, il faut attendre les réformes électorales de 1867 et 1884 pour que les règles soient unifiées sur tout le territoire et que le nombre d'électeurs atteigne respectivement 30% puis 60% de la population adulte masculine. Le suffrage universel masculin fut institué en 1918, avant d'être finalement étendu aux femmes en 1928, et cette dernière phase des réformes accompagna les premiers succès décisifs du Parti travailliste. Mais avant cela, ce sont bien les réformes de 1867 et 1884, doublées de l'abolition du scrutin public en 1872, qui ont totalement transformé les rapports de force entre les communes et les lords. À partir du milieu des années 1880, ce sont plus de 60% des hommes adultes qui sont amenés à choisir leurs députés, à bulletin secret, alors qu'ils étaient à peine plus de 10% jusqu'au début des années 1860, sous le contrôle des élus et des élites locales. L'extension du suffrage masculin a certes été plus graduelle qu'en France, où l'on est passé directement d'un suffrage censitaire hyper restreint, 1%, au suffrage universel masculin, soit 100%, voire graphique 5.3 sur l'évolution du suffrage masculin en Europe entre 1820 et 1920. Mais elle n'en a pas moins totalement bouleversé les conditions de la compétition politique en quelques décennies. En particulier, le premier effet de ces réformes a été de conduire l'ancien parti Whig, rebaptisé parti libéral en 1859, à épouser la cause des nouveaux électeurs et par là même à adopter une plateforme et une idéologie nettement plus favorables aux classes moyennes et populaires. La réforme électorale de 1867 contribua fortement au triomphe des libéraux aux élections de 1880, ce qui permit la réforme de 1884. Celle-ci entraîna la perte immédiate de dizaines de circonscriptions rurales détenues par des familles nobles, parfois sans interruption depuis plusieurs siècles. À partir des années 1880-1890, les libéraux n'auront de cesse de pousser le parti conservateur et la Chambre des Lords, où les Tories régnaient en maître, dans leur dernier retranchement, et de faire valoir leur légitimité nouvelle pour gouverner le pays. En particulier, après s'être illustré dans le combat pour l'abolition des Corn Laws en 1846, qui limitait les importations de céréales et produits agricoles et protégeait les productions domestiques, et la réduction des tarifs douaniers et autres taxes indirectes pesant sur le pouvoir d'achat des ouvriers et des salariés du royaume, ce qui leur permit de marquer des points face aux Tories, suspectés non sans raison de vouloir garder des prix agricoles élevés pour assurer la profitabilité de leurs domaines terriens. Les libéraux commencèrent à formuler dans les années 1880-1890 des propositions de plus en plus audacieuses en matière de politique sociale et d'impôts progressifs sur les revenus et les successions. Dans les années 1880, Salisbury, leader des Tories, avança imprudemment la théorie du « référendum ». Sur le plan moral et politique, les Lords avaient selon lui le droit et le devoir de s'opposer à une législation adoptée par les communes à partir du moment où la majorité aux communes n'avait pas été élue explicitement sur la base de cette législation précise, clairement exposée au pays avant les élections. Dans un premier temps, les Tories crurent avoir trouvé la parade. Les Lords opposèrent en 1894 leur veto au projet de Gladstone, leader des libéraux, de nouvelles législations sur l'Irlande, au nom du fait que cette réforme modérément populaire en Angleterre n'avait pas été explicitement annoncée aux électeurs. C'est ce qui permit aux conservateurs de remporter les élections de 1895 et de revenir au pouvoir. Mais l'imprudence de la stratégie de Salisbury, trop confiant dans la capacité supérieure des Lords et des Tories à interpréter la volonté profonde du pays, apparut rapidement au grand jour. Revenus au pouvoir sous la conduite de Lloyd George, les libéraux firent adopter en 1909 par la Chambre des communes leur fameux « People's Budget », avec à son cœur un cocktail détonnant, la création d'un impôt progressif sur le revenu global, la supertaxe qui venait s'ajouter aux impôts quasi-proportionnels qui pesaient séparément sur les différentes catégories de revenus depuis 1842. Le relèvement des droits de succession sur les héritages les plus importants, les « death duties », et pour couronner le tout, un relèvement de l'impôt foncier, la « land tax », pesant particulièrement sur les grands domaines terriens. L'ensemble permettait de financer une nouvelle série de mesures sociales, en particulier concernant les retraites ouvrières, dans un contexte électoral où les libéraux craignaient d'être graduellement remplacés par les travaillistes, ce qui allait finir par arriver, et où il leur fallait donner des gages aux catégories populaires. Le tout avait été parfaitement calibré pour obtenir l'assentiment majoritaire des communes, et surtout de l'opinion du pays et des nouveaux électeurs, tout en constituant une provocation inacceptable pour les Lords, d'autant plus que Lloyd George ne ratait pas une occasion de se moquer publiquement de l'oisiveté et de l'inutilité de la classe aristocratique. Les Lords tombèrent dans le panneau et opposèrent leur veto au « budget du peuple ». Ils avaient pourtant accepté de voter en 1906-1907 les nouvelles législations du travail accordant davantage de droits aux ouvriers et aux syndicats. Mais en mettant leur veto sur des mesures fiscales les ponctionnant directement, ils prirent un risque fatal, celui d'exposer au grand jour leur égoïsme de classe. Lloyd George choisit alors de doubler la mise en faisant adopter une nouvelle loi par les communes, cette fois-ci de nature constitutionnelle, selon laquelle les Lords ne pourraient désormais plus amender les lois de finances, qui dès lors relèveraient uniquement des communes, et stipulant que leur pouvoir de blocage sur les autres lois ne pourrait plus excéder une année. Les Lords opposèrent sans surprise leur veto à ce suicide programmé, et de nouvelles élections furent convoquées qui aboutirent à une nouvelle victoire des libéraux. En vertu de la doctrine Salisbury, les Lords auraient alors dû se démettre volontairement et accepter de voter les législations litigieuses qui étaient maintenant à la fois fiscales et constitutionnelles. Mais compte tenu de l'ampleur historique de l'enjeu, de nombreux Lords étaient prêts à revenir sur cet engagement de leur chef qui n'était au fond qu'informel. D'après les témoignages les plus qualifiés, il semblerait que la menace du roi de créer jusqu'à 500 nouveaux sièges de Lords, suite à une promesse secrète qu'il aurait faite à Lloyd George avant les élections, ait joué un rôle décisif. Il est cependant très difficile de dire ce qui serait réellement arrivé si les Lords ne s'étaient finalement résolus à adopter en mai 1911 la nouvelle loi constitutionnelle. Toujours est-il que c'est à ce moment précis que la Chambre des Lords a perdu tout pouvoir législatif véritable. Depuis 1911, c'est la volonté majoritaire exprimée dans les urnes et à la Chambre des communes qui a force de loi au Royaume-Uni, et les Lords n'ont plus qu'un rôle purement consultatif et largement protocolaire. L'institution politique qui avait gouverné le Royaume-Uni pendant des siècles et qui avait présidé à la formation et aux destinées du premier empire colonial et industriel mondial tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle avait de fait cessé d'exister comme instance décisionnaire. D'autres réformes constitutionnelles de moindre portée eurent lieu par la suite. La possibilité de nommer des membres à vie, et non plus sur une base héréditaire, fut introduite en 1959. Et surtout, leur nombre fut fortement augmenté en 1999, à tel point que la Chambre des Lords est devenue, au début du XXIe siècle, composée majoritairement de membres nommés sur la base de leurs compétences ou de leurs actions au service du royaume, mais qui ne peuvent transmettre héréditairement leur siège. Pourtant, c'est bien lors de la crise de 1909-1911, au sujet de la question de la progressivité fiscale et de la réduction des inégalités sociales, qu'eut lieu le moment fatidique où les Lords perdirent leur pouvoir. À peine plus de 30 années plus tard, en 1945, le Royaume-Uni était gouverné pour la première fois par une majorité absolue de députés travaillistes, issu d'un mouvement politique dont la raison d'être était de représenter les classes populaires et prolétaires du pays et qui mettrait en place le National Health Service et un ensemble de politiques sociales et fiscales qui allaient contribuer à transformer radicalement la structure des inégalités britanniques, comme nous le verrons plus loin. L'Irlande, entre idéologie trifonctionnelle, propriétariste et colonialiste. Même si c'est la question de la progressivité fiscale et de la réduction des inégalités sociales qui joue le rôle central lors de la chute de la Chambre des Lords en 1909-1911, il faut aussi souligner l'importance de la question irlandaise dans la remise en cause générale du régime inégalitaire du Royaume-Uni entre 1880 et 1920, à la fois dans ses dimensions trifonctionnelles, propriétaristes et quasi-coloniales. Le cas de l'Irlande illustre une situation d'inégalité extrême, conjuguant en effet des éléments issus de différentes origines politiques et idéologiques. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Irlande est beaucoup plus pauvre que l'Angleterre. La production agricole et manufacturière par habitant y est deux fois plus faible. L'écart de niveau de vie est aggravé par le fait que l'essentiel des terres agricoles irlandaises est détenu par de grands propriétaires terriens qui résident en Angleterre et, pour une part, sont des membres de la Chambre des Lords. Il s'agit dans le fond de la même situation de concentration extrême de la propriété terrienne que celle qui prévaut sur l'île de Grande-Bretagne, sauf que le thème des « absentee landlords », ces propriétaires absents qui perçoivent des rentes foncières depuis leur manoir anglais, donne à la situation irlandaise une résonance particulière. Il faut ajouter que les catholiques, qui forment 80% de la population de l'Irlande, ont des droits civiques et politiques fortement restreints. Ils sont tenus de payer la dîme à l'Église anglicane irlandaise, bien qu'ils n'en soient pas membres, et ils n'ont pas le droit d'élire de représentants au Parlement irlandais qui, en tout état de cause, est soumis au Parlement de Westminster depuis 1494 et ne peut rien décider sans son approbation. Il s'agit donc bien d'une situation de type colonial. Cependant, inquiétés par le mauvais exemple de la guerre d'indépendance américaine, 1775-1783, et plus encore par les risques récurrents d'invasion française en 1796-1798, la monarchie britannique et son parlement adoptent en 1800 l'acte d'union avec l'Irlande, qui en réalité s'apparente à une reprise en main de l'île, ou plutôt à un marché de dupes. Les catholiques irlandais les plus aisés obtiennent certes le droit de vote sur une base censitaire et l'Irlande peut désormais élire 100 représentants aux communes. Le rapport démographique est cependant très déséquilibré. Alors que le recensement de 1801 dénombre plus de 5 millions d'Irlandais et à peine 9 millions d'Anglais, ces derniers ont droit à plus de 500 sièges. Cette représentation aux communes de Londres s'accompagne en outre de la suppression du Parlement irlandais, clairement dans le but d'éviter que puisse exister une enceinte à majorité catholique. Par ailleurs, les catholiques continuent de devoir acquitter la dîme à l'Église anglicane, ce qui deviendra un motif de conflit de plus en plus violent. La situation va se tendre bien plus encore à la suite de la grande famine irlandaise de 1845-1848, d'une ampleur unique en Europe au XIXe siècle. On compte 1 million de morts et 1,5 million d'émigrés dans les années qui vont suivre pour une population initiale d'environ 8 millions d'habitants. Les preuves abondent pour montrer que les élites britanniques étaient au courant des événements et ont refusé de prendre les mesures nécessaires pour éviter le drame, avec, dans certains cas, l'objectif quasi explicite de régulation malthusienne d'une population pauvre et rebelle de surcroît. La comparaison a souvent été faite avec la famine du Bengale de 1943-1944, environ 4 millions de morts pour une population de 50 millions. Elle n'est pas totalement injustifiée, dans le sens où les stocks de nourriture étaient suffisants dans les deux cas, mais que l'on se refusait de planifier leur transfert immédiat vers les zones en détresse, en partie au motif qu'il fallait laisser l'augmentation des prix jouer son rôle de signal et inciter ainsi les détenteurs de réserves de grains à répondre à cette demande par le biais des forces de marché. Ces événements vont alimenter une rancœur décuplée des Irlandais face aux propriétaires absents, qui, non contents de toucher leur rente à distance, ont laissé le drame se dérouler de l'autre côté de la mer. De façon plus générale, on voit se développer en Irlande, mais aussi en Écosse et au Pays de Galles, un mouvement multiforme de protestation contre les propriétaires terriens à partir des années 1860-1870. On assiste à des refus d'acquitter les loyers et de plus en plus souvent à des occupations de parcelles qui dégénèrent parfois en affrontements violents avec les forces de l'ordre et les milices des propriétaires. La première revendication de la population rurale, en particulier en Irlande, est d'abord de pouvoir travailler sur sa propre terre, donc d'accéder à la propriété. Le gouvernement Gladstone fit alors voter une première loi en 1870, le Irish Land Act, limitant les possibilités d'éviction des exploitants locataires, ouvrant des prêts gouvernementaux pour que les paysans puissent racheter les terres et prévoyant des compensations pour les paysans au cas où ils seraient expulsés des terres après y avoir apporté des améliorations, par exemple sous forme de drainage ou d'irrigation, cas de figure typique qui a toujours nourri des revendications puissantes de la part des exploitants non propriétaires dans tous les systèmes agraires du monde. Mais dans le cadre du système légal de l'époque, extrêmement favorable aux propriétaires, ces mesures n'eurent quasiment aucun effet. Il suffisait en effet que les landlords augmentent suffisamment le niveau des loyers pour pousser au départ les paysans qui posaient problème. Aucun tribunal, aucun gouvernement n'aurait songé à cette époque à intervenir dans cette liberté contractuelle. Si l'on allait plus loin, ne risquait-on pas de remettre en cause l'ensemble des relations entre propriétaires terriens et paysans sans terre, non seulement en Irlande mais également en Angleterre? Tout cela ne conduirait-il pas inévitablement à des revendications similaires dans d'autres secteurs que le monde rural et à une fragilisation générale du droit de propriété, y compris par extension dans l'immobilier urbain et dans l'industrie? Si chaque occupant d'un bien, chaque utilisateur d'un capital quelconque, pouvait dorénavant demander à en devenir propriétaire au motif qu'il aurait travaillé suffisamment longtemps en utilisant ce capital, alors c'est la société dans son ensemble qui risquait de s'effondrer. On retrouve dans ces débats sur les terres irlandaises les mêmes arguments entendus au sujet des corvées et des lots pendant la Révolution française. Toute remise en cause de la légitimité des droits de propriété établis dans le passé risque d'ouvrir une boîte de Pandore dont la société ne sortira pas indemne, car personne ne saura où s'arrêter. La situation devint cependant de plus en plus violente en Irlande, avec une généralisation des occupations de terres et des refus d'acquitter les loyers. C'est à ce moment, dans les années 1880-1890, alors que le droit de vote aux communes venait d'être considérablement étendu, que la peur allait changer de camp et que les propriétaires commencèrent à réaliser le caractère intenable de la situation. Quand ils étaient au pouvoir à Londres, les Tories continuèrent certes d'afficher une approche sécuritaire sans pitié vis-à-vis des agitateurs, par exemple avec le Crime Act de 1891, qui durcit les pouvoirs de police déjà renforcés en 1881 pour procéder aux arrestations des terroristes et aux emprisonnements jugés nécessaires. Mais dans le même temps, les uns et les autres, Tories et libéraux, et surtout les landlords eux-mêmes, commencèrent à réaliser que si l'on ne procédait pas rapidement à une redistribution des terres irlandaises au bénéfice des petits paysans catholiques, dans un cadre aussi légal et apaisé que possible, alors la dégradation de la situation allait rapidement mener à une expropriation complète des absentee landlords à travers l'indépendance du pays. C'est finalement ce qui se produisit avec la création d'un État libre irlandais en 1921, puis de la République d'Irlande en 1937, après de violents affrontements dont les traces sont encore bien présentes aujourd'hui. Mais il est intéressant de noter que cette menace indépendantiste bien réelle conduisit le système politique britannique à mettre en place entre 1880 et 1920 des formes de plus en plus volontaristes de réformes agraires et de redistribution des propriétés terriennes irlandaises qui étaient autant de coups de canif dans l'idéologie propriétariste dominante. Concrètement, le gouvernement décida graduellement de consacrer des sommes de plus en plus importantes pour aider les Irlandais à racheter les terres. Au final, il s'agit bien d'une redistribution des terres organisée par le gouvernement, mais avec une large compensation des propriétaires financés sur argent public. Une loi fut votée en ce sens en 1891, beaucoup plus volontariste et mieux financée que celle de 1870. Elle fut suivie d'un nouveau Land Act en 1903, qui permit aux anciens locataires d'acheter leurs terres et de rembourser l'achat pendant 70 ans à un taux d'intérêt nominal de 3%, à un moment où l'on ne pouvait pas se douter des épisodes inflationnistes qui suivraient et qui allaient en pratique réduire ces remboursements à peu de choses. Avec en outre des subventions gouvernementales à hauteur de 12% de la valeur des parcelles. L'ensemble fut complété par une loi de 1923, contraignant cette fois-ci les propriétaires restants à vendre leurs terres au nouveau gouvernement irlandais, qui les céda à bas prix aux locataires. D'après certaines estimations, ce sont près des trois quarts des terres qui avaient déjà changé de main avant la guerre, à la faveur des lois successives de 1870, 1891 et 1903, et surtout de la mobilisation des paysans irlandais. Cette expérience irlandaise est révélatrice à plus d'un titre. D'abord, cette situation d'inégalité quasi-coloniale contribua à une remise en cause plus générale de la légitimité du système de propriété privée et des inégalités persistantes qu'il entraînait. Pour couper court aux accusations d'hyperconcentration de la propriété terrienne, notamment en Irlande, les Lords acceptèrent par exemple de lancer de grandes enquêtes dans l'ensemble du Royaume-Uni au cours des années 1870, Land Surveys, qui, en l'occurrence, aboutirent à la conclusion que la propriété était encore plus concentrée que dans les estimations les plus pessimistes. Ces enquêtes jouèrent un rôle important dans l'évolution générale des représentations de l'inégalité et de la redistribution, car elles montrèrent que le pays était certes à la pointe de la modernité industrielle, mais se trouvait en même temps à la pointe d'un certain archaïsme inégalitaire, et que les deux réalités n'étaient pas contradictoires, bien au contraire, un peu comme dans la France de la Belle Époque. Le cas irlandais est d'autant plus intéressant que nous retrouverons des problématiques voisines de redistribution de la propriété et de réformes agraires dans d'autres contextes postcoloniaux, par exemple en Afrique du Sud dans les années 1990 et jusqu'à nos jours. Plus généralement, cette expérience irlandaise illustre les liens étroits entre la question des frontières et celle de la redistribution, entre la question du régime politique et celle du régime de propriété. Ces interactions entre systèmes de frontières et structures des inégalités, en lien avec les dimensions à la fois politiques, patrimoniales et parfois migratoires, jouent toujours un rôle clé en ce début du XXIe siècle, dans les îles britanniques, en Europe et dans le monde.